Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, gloire à Dieu, c'est bon. Je voudrais faire un petit coucou à Franck Capto ce matin, avec qui je parle beaucoup en ce moment. C'est bien les gens qui écrivent avec Révélation Bible, j'entretiens des relations vraiment formidables avec plusieurs d'entre eux. Et que Dieu bénisse cet homme en particulier aujourd'hui. Voilà, ça va? On va commencer? D'accord. Vendredi, je vous parlais au sujet de l'Église, puis après, j'ai réécouté le message et j'ai dit, il y a des choses quand même, il faut que je dise, qui sont importantes, et je vais donc vous en dire un peu plus ce matin. Je pense que vous vous souvenez que je vous ai parlé des principes fondamentaux de l'Évangile qui font qu'on est chrétien. Hein, vous vous en souvenez, je pense qu'on va les reciter tout à l'heure encore, mais si vous n'avez pas, si vous n'avez pas écouté cette prédication de vendredi, allez l'écouter, c'est important. Si on ne croit pas dans ces principes fondamentaux, on ne peut pas dire qu'on est un chrétien. Il faut croire ces choses-là, ça c'est les choses de base. Et vous devriez trouver, pas loin de chez vous, une église qui croit et qui pratique ces principes fondamentaux. Il y en a partout, hein. Alors, aucune n'est parfaite, ça c'est certain. Et si vous trouvez une église qui croit ces principes fondamentaux, eh bien, soyez un membre fidèle, parce que même si c'est pas parfait, il faut quand même être fidèle, parce qu'on a besoin de communion fraternelle, on a besoin d'être avec les autres pour prier, pour chanter, pour s'aider, s'entraider. Et vous pouvez recevoir de l'aide, mais vous pouvez aussi en donner. Et je pense que ça serait bien que vous puissiez vous trouver une église pas trop loin de chez vous, et puis que vous commencez à fréquenter le responsable de votre église, de votre assemblée, et que vous fassiez ami avec. Et Dieu a établi des bergers, c'est-à-dire des pasteurs, pour chaque église locale. On va dire quelque chose dans la Bible ce matin, dans Jérémie chapitre 3, verset 15, pour commencer. Jérémie 3, 15. Voilà ce qu'il est dit. C'est Dieu qui parle et qui dit « Je vous donnerai des bergers, des pasteurs, selon mon cœur, et ils vous paîtront avec connaissance et intelligence. » On paie les brebis. Hein. Quand Jésus dit « paix », mes brebis, ça ne veut pas dire la paix, P-A-I-X, mais c'est paître, comme un berger qui est avec ses moutons, qui va les faire paître. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de bon. Il faut que vous sachiez que c'est Dieu qui établit dans la véritable Église où il y a les véritables principes fondamentaux, c'est Dieu qui établit les pasteurs. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui se glissent dans les églises et qui sont des imposteurs, mais vous allez vous en rendre compte quand même assez rapidement. La Bible est claire, les véritables pasteurs de la véritable Église ont une grande responsabilité. Vous trouvez ça dans Actes chapitre 20, verset 28. Acte 20, 28, verset 20, 28. Prenez donc garde à vous-même, c'est ce que Jésus dit au pasteur, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pour paître la communauté messianique de Dieu qu'il s'est acquise pour lui-même au prix du sang de son propre Fils. Vous voyez que c'est une responsabilité. Un pasteur ne fait pas n'importe quoi. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, bien vous allez lui demander. Il est toujours là quand même pour vous expliquer pourquoi, et ceci et cela. Et vous pourrez toujours vous entendre. 1 Pierre 5, 2 aussi, où il est dit aux pasteurs et aux anciens de l'assemblée, « Paissez le troupeau de Dieu dont vous avez soin, veillant sur lui, non par contrainte, non pas en disant, oh, encore je vais au boulot, ça vous casse les pieds, les pasteurs, arrêtez, allez travailler à l'usine, hein, mais il ne faut pas que ça soit par contrainte, mais volontairement comme Dieu le veut, non pour un gars malhonnête, aïe, c'est là que ça blesse beaucoup, parce qu'il y a quand même pas mal qui, ayant raté leurs études de pharmacien, font pasteur, parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Donc il faut bien l'avouer, il y a quand même beaucoup de gens qui font pasteur pour ramasser le pognon, hein. Ils prêchent une espèce d'abondance se basant sur des textes bibliques, et puis ils sont les seuls à avoir l'abondance parce qu'ils ramassent tout le pognon de tout le monde, mais ils ne partagent pas avec les autres. C'est ça qui C'est déjà à l'époque, hein, il leur dit ne faites pas le travail de berger pour un gain malhonnête, mais avec enthousiasme. Enthousiasme, c'est un mot qui signifie transport divin. Un pasteur, il doit être transporté divinement, il doit être. Moi, je préfère les transports divins que les transports en commun, par vous. Alors ensuite, il dit, et non pas comme des mâcheurs, dominant, on va voir ce que c'est que le mot mâcheur, dominant sur ceux qui sont sous votre garde, mais comme des modèles du troupeau, et quand le chef des pasteurs paraîtra, c'est-à-dire Jésus, vous recevrez une couronne de gloire qui ne flétrit pas. Alors, les pasteurs doivent être des modèles, mais surtout pas des mâcheurs dominants sur le peuple. Il y a un autre texte dans l'Apocalypse, je crois, 3, oui, où il est dit que Dieu déteste les Nicolaïtes. Nicolaïtes, ça vient de deux mots, Nikaos et Laos, qui signifie dominer le peuple. Et Dieu déteste les gens qui, dans l'Église, essayent de dominer sur le peuple. Toi, tu vas te marier avec toi, puis c'est ainsi dit le Seigneur, et puis comme si Dieu. Ça, c'est faux. Des gens qui font ça, c'est faux. Qui dominent comme ça. Alors, le mot mâcheur signifie un gros bonnet. C'est un mot hébreu qui signifie un gros bonnet. C'est-à-dire une personne pleine d'autosuffisance et une personne qui brasse des affaires. On ne dirige pas l'Église de Jésus-Christ comme on dirige une entreprise. C'est faux. Il faut que le pasteur soit à l'écoute du Saint-Esprit. Alors, allez dans une église pas trop loin de chez vous, puis vous allez vite voir. Hein. Vous n'êtes pas bête, vous allez vite voir si le pasteur c'est un leader ou si c'est un pasteur. Maintenant, il y a beaucoup ce truc de leader. C'est quoi ça? C'est pas un ministère, on ne trouve pas le mot leader. C'est pas un ministère, c'est pasteur. Un pasteur, il pue la brebis parce qu'il vit avec ses brebis. Vous connaissez les bergers? En Suisse, je connaissais les bergers. Hein, dans ma campagne là-bas. Puis l'été, on allait dans les montagnes. Avec j'ai un ami qui s'appelait, comment il s'appelait? On l'appelait toujours Dubas, mais il s'appelait pas Dubas, il s'appelait De La Fontaine, et on l'appelait Dubas, parce que c'était le diminutif de Dubassin, La Fontaine. Et il avait un chalet, mais alors c'était vraiment un chalet à vache, hein, il n'y avait pas le confort. Et alors, on allait l'été là, et on voyait les bergers, les gens qui s'occupaient des troupeaux, ben, ils sentent la vache, ils sentent la brebis, ils sentent, parce qu'ils sont tout le temps avec. On va lire un autre texte, vous voyez, dans Hébreux 13, 17. On en lire pas mal aujourd'hui, parce que ce que je veux, c'est toujours étayer ce que je dis avec les Écritures. Hébreux 13, 17. « Obéissez à vos pasteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent constamment sur vos vies comme devant en rendre compte. Faites donc en sorte qu'ils puissent faire leurs tâches dans la joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » C'est-à-dire que si vous leur cassez les pieds, ben, ils vont faire leur travail, mais en gémissant. Parce que vous n'êtes pas là pour les aider, mais pour pomper leur énergie. Alors, vous savez, j'en ai vu des églises. Mais la première église où j'allais, je ne vous dirai pas où c'était, il y avait quatre frangines. On les appelait les sœurs Bowman. Mais elles ne s'appelaient pas Bowman, mais on les appelait comme ça. Du temps que j'étais là-bas, pendant 2 ans, elles ont fichu dehors 4 pasteurs, tellement qu'elles les harcelaient, qu'elles étaient méchantes, médisantes, et pour un, ne soyez pas cette sorte de personne. Un pasteur, c'est un être humain qui a ses défauts. Soyez gentils avec vos pasteurs, soyez-leur soumis, pas, ça ne veut pas dire mis dessous, mais ça veut dire respectueux, et faites ce qu'ils vous disent, à part ce qu'ils vous disent de péché, évidemment. Ça, c'est certain. Mais voilà, donc ils veillent constamment sur vos vies, comme devant en rendre compte devant Dieu. Donc, faites en sorte qu'ils puissent, comme il dit là, faire leur travail, leur tâche, dans la joie et non en gémissant, parce que ça ne vous serait aucun avantage, parce que finalement, ceux qui font des problèmes aux pasteurs, ben, ils finissent par avoir des problèmes eux-mêmes, ce n'est pas dans leur avantage. Et puis, vous avez donc là, on a lu Hébreux 13, 17, et vous voyez que quand on lit des textes dans la Bible, on n'a pas besoin de les interpréter, ils sont clairs, non? C'est très clair. Ce qu'il faut donc, c'est que vous donniez du respect à votre pasteur et que vous cherchiez à l'aider dans tout ce qu'il fait pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ dans l'église locale, mais aussi dans la mission, s'il s'occupe d'œuvres humanitaires ou de missions en terre étrangère. Il faut que vous l'aidiez. pas seulement spirituellement en priant, mais aussi financièrement et voilà, dans tous les domaines. Aussi, l'aider de temps en temps, c'est l'inviter à manger quelque chose, à avoir une communion fraternelle avec lui, être sympathique. Pas seulement divin, mais aussi humain. D'accord ? Bon. Si vous ne trouvez pas une église et un pasteur comme ça dans votre région, si vous ne trouvez pas une assemblée où vous pouvez aller pour édifier votre foi, si vous ne trouvez vraiment pas une église où adorer Dieu en compagnie d'autres croyants, alors faites ce que les premiers chrétiens faisaient. Ce n'est pas interdit. Ils faisaient de leur propre maison un lieu de prière, un lieu d'étude, un lieu où on louait Dieu. Et ils encourageaient d'autres personnes à venir louer Dieu, étudier, prier. C'est comme ça que ça se passait au début, quand vous regardez dans le Nouveau Testament, les églises, elles ont été établies comme ça. Regardez Actes 2, chapitre 46-47. Voilà ce qui est dit. Actes 2, 46-47. Ils rompaient le pain de leur maison. Oui, ils ne rompaient pas le pain, ils ne prenaient pas la Sainte-Seine dans un édifice appelé église. Ils partageaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur continuait à ajouter à leur groupe ceux qu'il sauvait. Oui, et ça se passait dans des maisons. Vous avez dans Actes 5, 42 aussi un très beau texte qui dit à peu près la même chose. Il est dit là, et pas un seul jour ne passa sans qu'ils enseignent et proclament, que ce soit dans la cour du temple ou dans les maisons, la bonne nouvelle de Yeshua le Messie. Donc ils enseignaient partout, dans les maisons, au temple à Jérusalem, partout, dans les rues, partout. Et vous avez Acte 12 aussi, qui dit, Acte 12, où il est dit, ayant réalisé tout ce qui était arrivé, ils se rendirent à la maison de Myriam, la mère de Yohanan, c'est-à-dire chez Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où de nombreuses personnes s'étaient réunies pour prier. Donc, de nombreuses personnes s'étaient réunies pour prier dans la maison de cette dame. C'est une église. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tout le reste, c'est de l'organisation, si vous voulez. Parce que si vous faites ça dans votre maison, puis que vous avez 4 personnes, ça va. Si vous avez 10 personnes, ça va. Ça dépend de l'appartement que vous avez. Et si, quand vous commencez à en avoir 500, vous allez dire, bon, peut-être même avant, hein, vous allez dire, bon, on va louer quelque chose, on va louer un local, parce que ce n'est pas possible de continuer dans la maison. Vous comprenez? Ce n'est pas compliqué. Dans Actes 20-20, il est dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui pouvait être utile et que je vous enseignais publiquement, mais aussi de maison en maison. Voilà, ça c'était l'apôtre qui faisait ça. C'est pas interdit d'enseigner dans les maisons. Il y a beaucoup de pasteurs qui disent, ouais, ces réunions de maison, tout ça, parce qu'ils veulent absolument réunir tout le monde dans leur église, et ils sont contre les réunions de maison. Mais c'est des réunions de maison, mais c'est pas mal si c'est pas des réunions de cancanage et de médisance. Si c'est des réunions de prière et d'étude de la parole de Dieu, c'est très bien. Ensuite, vous avez Acte 28-30-31, où il est dit, Paul demeura 2 années entières dans un logement qu'il avait loué pour lui-même. Il continua de recevoir tous ceux qui venaient le voir, donc dans sa maison, proclamant ouvertement et sans obstacle le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Yeshua, Jésus, le Messie. Vous voyez, dans sa maison, il avait loué une baraque et puis il faisait des réunions dans cette maison. Est-ce que c'est mal? Non, si les premiers chrétiens le faisaient, et si vraiment vous ne trouvez pas une église dans votre coin, ben vous pouvez faire ça. Très bien, rien, Dieu ne sera pas contre vous, pas du tout. Faites cela parce que ce sont les Écritures, faites ça dans votre ville, dans votre village, s'il le faut, si vraiment vous ne trouvez rien d'autre. Mais une chose aussi, s'il y a une église dans votre village, n'invitez pas les gens de l'église à venir chez vous. Ils ont déjà une église. Invitez des non-convertis, puis emmenez-les à Jésus, d'accord? Ne faites pas des divisions dans l'église, ça c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Vous savez, Jésus a fait une déclaration qui est profonde au sujet de l'établissement de son Église. Il a dit, l'Église authentique, elle est fondée sur la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ça, le fondement de l'Église. Autrement dit, Si, comme je vous parlais de ces principes fondamentaux, je vous les redonne là. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si tu crois qu'il est conçu du Saint-Esprit, si tu crois qu'il est né d'une vierge, si tu crois qu'il est Dieu venu en chair, si tu crois qu'il s'est chargé de tes péchés par sa mort à la croix, si tu crois qu'il a versé son sang pour la rémission de tes péchés, si tu crois qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour notre justification, si tu crois qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu et qu'il intercède à jamais pour toi, pour nous, et qu'il est le seul intercesseur, eh bien voilà, tu fais partie de la véritable Église, parce que ça c'est la croyance de base. Si tu crois ça, c'est bon. Après, il y a d'autres choses à croire, mais qui ne sont pas... dont on peut très bien se passer pour aller au ciel, si vous voulez. Hein, par exemple, moi je crois dans des tas de choses qui se croyaient aussi dans l'Église primitive, mais qui ne sont pas fondamentales, que vous trouvez dans la Bible, mais qui ne sont pas fondamentales. Ce qui est fondamental, c'est ça, c'est les principes fondamentaux. Alors, si tu crois ça, tu fais vraiment partie de la véritable Église, parce que cette révélation, elle est le fondement de l'Église. Un jour, Jésus était avec ses disciples et il a demandé: qui dit-on que je suis ? Alors tout le monde a donné sa réponse, mais c'est l'apôtre Pierre qui a donné la réponse, la bonne réponse. Il a dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On trouve ça dans la Bible, on va le lire d'ailleurs, dans Matthieu 16, 17-18. Voilà la réponse que Jésus lui fait. Matthieu 16, 17-18, il dit: Simon-Pierre, lui dit Jésus, Simon-Pierre répondit: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit: béni sois-tu, Simon-Pierre, car ce n'est pas un homme qui t'a révélé cela, pas un homme, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et je te dis encore que tu es Kephas, ce qui signifie pierre, et sur cette pierre je bâtirai ma communauté, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit au ciel, et tout ce que tu permettras sur la terre sera permis au ciel. Alors, beaucoup de gens ont dit, voyez, c'est sur Pierre que Jésus a bâti l'Église. Non, c'est sur la révélation que Pierre a eue. Il faut comprendre. C'est sur la révélation. La révélation que Pierre a eue, c'est la bonne révélation. C'est la révélation qui fait la base de l'Église, sur cette révélation. Toi, tu es Pierre, mais sur le rocher de cette révélation, je bâtirai mon Église. D'accord ? C'est clair ? Donc, si vous croyez aux faits fondamentaux, alors vous faites partie de l'Église de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas un bonhomme qui vous a convaincu, c'est l'Esprit de Dieu qui vous a convaincu. Peut-être au travers de la lecture de la Bible, peut-être en écoutant une de mes prédications, peut-être en écoutant un pasteur, un évangéliste, ou que sais-je. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous l'a révélé, parce que tant que ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous l'a révélé, vous ne pouvez pas le croire. Nul ne vient au Père que par moi. Et ne viennent à moi que ceux que le Père attire. Donc c'est le Saint-Esprit qui vous a révélé toutes ces choses, et si vous le savez, si vous le croyez, vous faites partie de la véritable Église de Jésus-Christ. Et tout l'enfer ne pourra rien contre vous, ne pourra ni vous détruire, ni vous détourner de votre position, ni vous mettre en dehors de son Église. Honnêtement, être membre d'une Église chrétienne locale, c'est qu'un symbole, si vous voulez. C'est un symbole. Des êtres humains, tels que des pasteurs, des anciens, des moniteurs, et des membres de votre Église, ils pourront vous aider, ils pourront vous enseigner, ils pourront vous juger. Et ils peuvent vous recevoir dans leur organisation, mais ils peuvent aussi vous en exclure, ils peuvent vous excommunier. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus ne vous excommuniera jamais si vous croyez dans les principes fondamentaux. Maintenant, si vous êtes un emmerdeur, c'est compréhensible que au bout d'un moment, le pasteur en a marre et vous fiche dehors. Il faut comprendre ça aussi. Vous avez des gens, des casse-pieds. Moi, j'ai une bonne femme qui était tombée amoureuse de moi. Non, mais c'est pas possible, ça. C'est une franche folle. Je dois la virer, c'est pas possible. On peut pas, un pasteur ne peut pas se traîner avec des gens déséquilibrés à ce point-là. Je suis un homme marié, fidèle à ma femme, c'est une bonne femme qui me courait derrière. C'est impossible. Donc, au bout d'un moment, je lui fais comprendre, voilà, ça suffit.
voyez, il faut savoir, peut-être des problèmes, des fois ils viennent des brebis, et les brebis pensent que ça vient du pasteur qui est trop dur. Non, des fois les brebis sont casse-pieds aussi, hein. Ah, il faut le savoir. Alors, Jésus, lui, de toute façon, il ne vous excommuniera pas si vous croyez dans les faits, dans ces faits fondamentaux que je vous ai donnés. L'essentiel, c'est d'être né de nouveau. D'être né de nouveau pour entrer dans la véritable Église de Jésus-Christ. Pour entrer dans la véritable Église de Jésus-Christ, il faut naître de nouveau. Jean chapitre 3. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'Église, sur terre. Après, il y a le royaume de Dieu à venir. Mais pour le moment, le royaume de Dieu, c'est l'Église. Là où les gens se rassemblent pour chanter, pour prier, pour s'instruire, pour voilà, et puis pour s'entraider et aider les autres. Alors, en résumé, 1. Jésus-Christ, lui-même, a fondé son Église et il la soutient. Il est la pierre de la... Et c'est sur la pierre de la révélation par la foi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu que cette Église a été fondée. Deuxièmement, Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alors on trouve ça dans Éphésiens chapitre 2, verset 19-22. Éphésiens 2, 19-22. Voilà ce qui est dit. Enfin, je commence au verset 20. Vous avez construit sur le fondement des émissaires, c'est-à-dire des apôtres et des prophètes, dont la pierre d'angle est Yeshua, le Messie lui-même. Unis à lui, nous bâtissons ensemble une construction bien ajustée qui s'élève pour former un temple saint pour le Seigneur. Oui, vous tous, en union avec lui, vous êtes édifiés ensemble pour former une maison spirituelle pour Dieu. Mais c'est lui la pierre angulaire, c'est sur Jésus que tout repose, c'est pas sur le pape ou sur la Vierge Marie ou je ne sais qui, non, c'est sur Jésus. Troisièmement, Jésus est le seul fondement. Et à pas 150, c'est le seul fondement. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 3, 11. Je vous lis le texte. Car personne ne peut poser d'autre fondation que celle qui a été posée, à savoir Jésus-Christ, le Messie. Jésus-Christ est le Messie. Ça, c'est la fondation. Si vous croyez que Jésus-Christ est un être historique, qui a vécu il y a 2000 ans et qui était vraiment bien, qui était gentil, qui faisait des miracles parce qu'il était guérisseur, vous n'êtes pas un chrétien. C'est pas ça, croire dans Jésus-Christ. Hein? Il vous faut une révélation de qui est vraiment Jésus-Christ. Il est Dieu fait chair, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas simplement un guérisseur exceptionnel ou un orateur formidable ou un prophète. Nos amis musulmans pensent que c'est un prophète remarquable. Bien sûr que c'est un prophète remarquable, mais ils sont à côté de la plaque parce qu'il n'est pas qu'un prophète remarquable, il est Dieu qui s'est fait chair. Ils disent c'est pas possible. Ils ont un petit Dieu qui a pour eux, leur petit Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Dieu peut tout faire. Il est venu pour nous, il s'est fait homme pour nous, pour mourir à notre place. Et voilà, ça c'est le fondement, c'est la base. C'est la base du christianisme. Donc, Jésus est le fondateur, il est le bâtisseur, et c'est à lui qu'appartient l'Église. Ce n'est pas un pasteur. Moi, je suis pasteur d'une communauté, ce n'est pas ma communauté. Elle appartient à Jésus-Christ. Il s'est livré lui-même pour son Église. On lit ça dans Éphésiens 5, versets 25-27. 5, 25, 27. Où est-ce que c'est ça? C'est pour Paul qui dit, Marie, aimez vos épouses, votre épouse, comme le Messie a aimé son Église, se livrant lui-même pour elle, afin de la mettre à part pour Dieu, la purifiant par l'immersion dans l'eau, voulant se présenter la communauté messianique à lui-même comme une épouse triomphante, sans tache ni ride, ni rien de tel, mais sainte et sans défaut. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur épouse comme leur propre corps, car l'homme qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï sa propre chair, à part les dingos. On connaît, au contraire, on la nourrit, on l'entoure de soins, comme le Messie l'a fait pour son Église, car nous sommes les membres de son corps. Nous sommes les membres de son corps. Hein, je vous ai parlé l'autre jour du corps de Christ. Et je comparais le corps de Christ au corps des pompiers. Vous avez vu ce qui est arrivé hier, c'est terrible, et nous sommes de tout cœur avec la famille, les amis de ces deux pompiers qui ont donné leur vie pour pour sauver d'autres personnes. Je vous en parlais vendredi, du corps des pompiers. Le corps de Christ, c'est un groupe d'hommes, de femmes qui s'entraînent pour pouvoir aller sauver les gens des flammes de l'enfer. C'est ça le but de l'Église. Nous sommes membres de son corps. Ainsi, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule Église, parce que le Christ n'a qu'un seul corps. Et il a bâti son Église, pas ses Églises. Alors, toutes ces églises. Vous pouvez vous affilier à une église de votre localité, mais votre filiation véritable, eh bien, elle est enregistrée au ciel dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est même, votre nom était inscrit avant la fondation du monde. Tout ça, c'était prédestiné. Alors, d'être inscrit sur un registre d'église, c'est un symbole, comme je disais ça tout à l'heure. J'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai enseigné à partir des Écritures, et j'espère que vous êtes en paix, que vous êtes en paix. En vérité, il n'y a que Jésus qui puisse donner la paix. Il ne la donne pas comme le monde donne. Il faut bien le dire, les gens d'Église sont souvent des gens qui créent des soucis aux autres. Très rapidement, au début de mon ministère, ce n'est pas les païens qui m'ont embêté, c'est les chrétiens. Et ça a toujours été comme ça. C'est quand même terrible. Il faut bien le dire, les gens d'église sont souvent des gens qui créent des soucis aux autres alors qu'ils devraient faire exactement le contraire. Et s'ils vous ont fait du tort, ben cherchez une autre église, puis c'est tout. Allez jusqu'au bout d'une réconciliation, mais si vous voyez que ce n'est pas possible. La Bible dit, soyez en paix avec tous dans la mesure du possible. Mais si vous voyez que ce n'est vraiment pas possible, hein, vous les quittez, puis c'est tout, puis il y en a d'autres. Hein. Ce qui est important, c'est que vous soyez inscrits dans le livre de vie. Mais comme je vous le disais tout à l'heure aussi, il faut que vous soyez certain ou certaine que ce n'est pas vous la responsable ou le responsable du problème qui a eu lieu dans l'Église. Et parce que ça se peut aussi, il faut vous mettre devant Dieu, il faut chercher la face de Dieu, lui demander, Seigneur, fond de mon cœur, est-ce que c'est moi qui ai fait une boulette, est-ce que c'est moi qui... Vous avez beaucoup de gens très orgueilleux qui pensent toujours que c'est la faute des autres, peut-être vous faites partie de cette sorte de personne, je ne sais pas, moi j'en connais des gens comme ça, c'est toujours la faute des autres, c'est jamais leur faute, eux sont parfaits. Et puis alors, on a beau leur parler, on a beau leur expliquer, rien à faire. Alors, mettez-vous devant Dieu, et puis cherchez à savoir... Demandez à Dieu, Seigneur, parle-moi, il peut vous parler. Une statue ne peut pas vous parler, mais Dieu, lui, peut parler à votre cœur pour vous montrer si par hasard, ce n'était pas vous qui avez créé le problème. C'est très possible, à cause de votre caractère, ou à cause de votre comportement, ou que sais-je. Mettez-vous devant Dieu, soyez humble. Les problèmes ne viennent pas toujours des autres, des fois c'est nous qui les créons. Il faut être humble. Mais de toute façon, Jésus ne vous rejettera jamais. Il vous aime, il veut votre bien. Alors, suivez les conseils que je vous donne ici, vous verrez, il agira pour vous, il vous bénira, et... parce qu'il aime ça. Comme je vous l'ai toujours dit, il aime vous bénir. Et j'ai terminé par une phrase que disait ma vieille sœur Camélia, t'es homme, elle disait, Michel, tu n'es pas un louis d'or. C'est ce que c'est qu'un louis d'or. Maintenant, on a des euros, on n'a plus de louis d'or, mais on peut avoir des louis d'or, hein. Tu n'es pas un louis d'or. Et elle me disait, il n'y a que les louis d'or que tout le monde aime. Tout le monde ne peut pas t'aimer, tout le monde ne peut pas te comprendre. Voilà, c'est tout. Tu n'es pas un louis d'or. Alors, tu ne peux pas plaire à tout le monde, toi non plus. Ce n'est pas possible. Et tout le monde ne peut pas te plaire non plus. Donc, il faut que tu cherches. C'est quand même bon de trouver un endroit pour louer Dieu avec des frères et sœurs. Et s'il n'y a pas d'église dans ta région, ou si tu te sens seul dans l'église de ta région, ou si tu ne te sens pas bien dans l'église de ta région, si tu es mis de côté, ou je ne sais pas quoi, réunis tes amis, tes parents, tes voisins, tu leur dis, voilà, je vous invite à boire le thé, hein, je boire l'hôte, tu boire l'hôte, nous boire le thon, vous boire le thé. Invitez-les à boire le thé, acheter un petit gâteau, je sais pas. Et puis vous leur parlez de Jésus, vous leur racontez votre témoignage, vous lisez un psaume, je sais pas. En fait, puis vous priez pour ceux qui ont accepté votre invitation. Vous dites, je vais prier pour vous. Vous leur demandez pas s'ils sont d'accord. Vous dites, j'ai à cœur de prier pour vous. Je vous invite parce que je vous aime, je vais prier pour vous. Puis vous priez tout de suite. pas une prière de 20 minutes, hein, une petite prière de 30 secondes. Les gens, ça va toucher leur cœur, ça va toucher leur cœur. Et puis demandez-leur s'ils ont des questions à vous poser. Et s'ils vous posent des questions auxquelles vous n'avez pas les réponses, dites « je ne sais pas ». Avouez, je ne sais rien, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ta question. Comme ça, ils verront que vous n'êtes pas en train de chercher à les dominer en vous présentant comme un monsieur ou une madame, je sais tout. Hein, ils verront que vous êtes humble, que bon, ben, y a des choses que vous ne savez pas, puis vous le dites franchement, puis voilà. Puis ils vont trouver ça très très bien que vous ne sachiez pas. Moi, j'ai emmené un homme à Jésus en lui disant ça un jour. Il m'a posé une question, puis j'ai dit, ben, franchement, je ne sais pas. Ben, il s'est converti, il m'a dit, je n'ai jamais rencontré un pasteur qui m'a répondu ça. Toi, t'es un authentique, t'es un vrai, je veux, de ton Dieu, je veux. Et il s'est converti à cause de cette réponse. C'est rigolo, hein. Donc, invitez-les à venir un autre jour, fixez une date qui les arrange eux, et puis si ça ne vous arrange pas, essayez de leur expliquer que, bon, à ce moment-là, ce n'est pas tellement possible, mais arrangez-vous entre vous, puis fixez une date, et puis vous apportez des gâteaux, vous rachetez de nouveau des gâteaux, vous leur offrirez de nouveau du thé. La troisième réunion, vous allez voir, c'est eux qui apporteront les gâteaux. Non, ben bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Les gens sont, il y a des gentilles personnes. Rien n'est plus simple. Et quand vous verrez que votre groupe grandit, que vous avez 10, 20, 30 personnes, et puis que quelques personnes ont parlé du baptême, eh bien, appelez-moi et on verra ce qu'on fera. On verra ce qu'on fera. Dites-le-moi quand vous aurez un petit groupe comme ça qui veut se faire baptiser. Vous m'invitez, vous me dites. On verra comment on va s'organiser. Mais surtout, soyez gentils avec les gens. C'est-à-dire, faites-leur ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Et Dieu vous bénira. Merci Seigneur. Encouragez mes frères et sœurs qui sont un peu isolés dans leur coin, et qui ne fréquentent plus ou qui ne fréquentent pas l'Église. Aide-les à comprendre ce que j'ai dit et donne-leur bon courage de faire ces choses avec simplicité de cœur. Merci Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Au revoir. À bientôt.